affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir dans notre studio quelqu'un que vous connaissez tous bien, car il s'agit de Jacques Delarosière, qui chaque mois nous fait l'amitié et l'honneur de nous livrer à travers une chronique sa vision toujours affûtée, limpide et pédagogique sur l'actualité économique et financière. Jacques Delarosière a en effet ce talent de combiner une haute connaissance technique du monde économique et financier et aussi, ce qui est plus rare, une grande capacité à la rendre intelligible à ce qui semble souvent ésotérique aux citoyens, à l'épargnant ou aux salariés lambda. Mais si nous le recevons aujourd'hui, c'est parce qu'il vient de publier, sous le titre « 50 ans de crise financière », ses mémoires, à la fois personnelles et surtout professionnelles, qui, le titre le dit, nous permettent de juger de 50 ans d'évolution, non seulement du système économique et financier, mais de la société française. En effet, au cours de sa riche carrière, Jacques Delarosière a dirigé ou participé aux grandes institutions financières françaises et mondiales. Citons pour mémoire le Fonds monétaire international de 1978 à 1987, la Banque de France dont il était gouverneur de 1987 à 1993. Il était président également de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement de 1993 à 1998 et est aujourd'hui conseiller auprès du président de BNP Paribas. Voilà des postes qui sont également des postes d'observation privilégiés de l'une des plus fortes mutations que nous ayons eu à connaître au cours de l'histoire humaine, peut-être, mais en tout cas au cours du XXe siècle, à savoir cette fameuse financiarisation du monde. On a le sentiment, monsieur, d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation, même si vous êtes ici chez vous.
Non, mais ça me fait plaisir d'être là.
Mais nous avons le sentiment, en relisant cette fresque à la fois personnelle et raisonnée, de découvrir un monde et une France en mutation totale, et cela dans un laps de temps quand même très court. À l'échelle d'une vie professionnelle, on voit un basculement total dans un nouveau monde, devenu plus fluide, plus difficile à régler, à appréhender, à piloter, et c'est peut-être ce qui explique tous les soubresauts que nous vivons actuellement. Pour information, nous parlons alors que voici quelques jours, le Royaume-Uni a décidé de quitter, en tout cas les électeurs, de quitter l'Union européenne, ce qui est peut-être l'un des signes que décidément les enchaînements des événements sont devenus presque incontrôlables. Est-ce bien cela le thème de votre livre ?
Oui, c'est tout à fait ça. J'ai eu la chance d'avoir une carrière, comme vous l'avez rappelé, à la fois variée et extrêmement intéressante. Et je ne sais pas si j'ai eu la chance, je ne le crois pas, de traverser des périodes de crise successives. Et au fond, ce qui peut inviter à la réflexion, après avoir entendu votre curriculum vitae, en quelque sorte, que vous avez rappelé, c'est de se demander pourquoi, au cours de 50 ans de vie professionnelle, les crises se sont succédées, se sont répétées, sous des formes diverses d'ailleurs. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi, au fond, à juguler ces crises, à normaliser, à avoir un système plus stable ? Et alors, le livre n'est pas un traité qui explique ce genre de choses. Ce livre est un, comme vous l'avez très justement rappelé, c'est un livre de mémoire. Je raconte ce que j'ai vu, ce que j'ai traversé, les choses auxquelles j'ai été confronté. Et quand on part de ce point de vue-là, il faut, puisque c'est un petit peu pointilliste la démarche que j'ai eue, je regarde les choses que j'ai vues au fur et à mesure, il faut essayer de réfléchir au fil conducteur qui explique le phénomène de la répétition des crises. Et ce fil conducteur, je crois l'avoir trouvé. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir raison, mais bon, il faut bien avoir une thèse dans la vie. Je crois l'avoir trouvé dans ce qu'on appelle l'effondrement du système de Bretton Woods. Alors, c'est un peu technocratique que de dire ça, mais je vais l'expliquer, si vous permettez.
Ah, volontiers.
Le système de Bretton Woods, qui avait été négocié en 1944, c'est-à-dire à la fin de la guerre, mais pas tout à fait à la fin de la guerre, un peu avant, était fondé sur une idée très simple. C'était que les pays qui devaient participer au concert mondial du commerce international ne devaient pas chercher des avantages abusifs en dévaluant leur monnaie de manière ultra compétitive. C'était un phénomène qui avait eu lieu dans les années 30 et qui, parmi les nombreuses causes qui ont expliqué la guerre qui a commencé en 39-40, a eu un rôle. Les pays étaient dans un système international très déréglé et cherchaient à gagner des avantages compétitifs en faisant des dévaluations individuelles, meurtrières pour les autres. Et les Américains qui tenaient la plume au moment des accords de Bretton Woods en 44, avaient une idée forte et juste, c'était plus jamais ça. Et donc ils ont mis en place, avec les autres délégations, et en particulier la délégation britannique, présidée par un grand économiste, John Maynard Keynes, ils ont mis au point un système par lequel tous les membres de la communauté internationale devraient observer des parités pratiquement fixes les unes par rapport aux autres. Autrement dit, si on avait le franc, ben il ne fallait pas que le franc puisse dévaluer n'importe comment à l'égard du dollar ou à l'égard du Deutsche Mark. Il fallait que le système soit contrôlé et que les parités ne puissent évoluer que dans des marges très réduites, 1%.
Et négocier.
Et si on voulait en changer, il fallait à ce moment-là, comme vous le dites, négocier avec l'autorité du Fonds monétaire international pour obtenir une dévaluation. Alors, ce système a très bien fonctionné pendant la période, si vous voulez, entre 44 et 65 à peu près, pendant une vingtaine d'années, parce que les participants se sont soumis à cette discipline. Et en 1971, le système a commencé à se dérégler. Et c'est en août 71 que les Américains, qui étaient gênés par l'observance des règles du 1% maximum de fluctuation des monnaies entre elles, c'est en août 1971 que les Américains ont donné un coup de pied dans cette fourmilière et ont décidé qu'ils se libéraient de la contrainte de la fixité du change et que, ce faisant, ils éliminaient le rapport fixe entre le dollar et l'or. Parce qu'il faut savoir, sans être trop technique, mais il faut savoir que le dollar était la monnaie pivot du système, ce qui était légitime. Les Américains avaient la plus grande puissance économique, ils avaient gagné la guerre, tout le monde avait besoin de dollars pour importer des machines-outils. C'était donc normal que le dollar soit le pivot du système et que ça soit autour du dollar que le fameux 1% de variation maximale pour chacune des autres monnaies s'établisse. Mais la contrepartie, si vous voulez, de ce privilège du dollar, c'était que le dollar devait être convertible en or si les détenteurs de dollars le demandaient. Et après l'inflation américaine des années 60, la guerre du Vietnam qui s'est intensifiée à partir de 1965, il y a eu beaucoup de causes aux États-Unis de déficit, de décrédibilisation du dollar pour les gens qui le détenaient. Et on a commencé à voir des banques centrales présenter le dollar américain pour avoir de l'or en conversion. Ça a été le cas notamment de la France du général de Gaulle. Et les Américains se sont trouvés en quelque sorte piégés par le système de Bretton Woods qu'ils avaient eux-mêmes contribué massivement à établir, parce que il leur était difficile de dévaluer pour retrouver la compétitivité qu'ils avaient perdue du fait d'une plus grande inflation aux États-Unis que celle qui régnait ailleurs. Il leur était donc difficile de dévaluer, et en même temps, ils perdaient des parts de marché, et ils voyaient que le dollar était moins crédible et était l'objet de conversions en or de plus en plus importantes. Et ils n'avaient plus assez d'or pour permettre la conversion de l'ensemble des créances en dollars que les non-résidents possédaient. Et donc, à un moment donné, le 15 août 1971, ils ont dit « c'est fini ». Nous ne convertirons plus le dollar en or et nous faisons une dévaluation unilatérale qui a été une dévaluation de 10%.
Alors, 10%, c'est, on est bien d'accord, c'est gigantesque.
Oui, c'est important. C'était probablement insuffisant par rapport à ce que les Américains avaient perdu de compétitivité. Mais enfin, c'était ce qu'ils avaient fait. Et alors, vous me direz, oui, d'accord, c'est un épisode dans la vie de Bretton Woods.
Ça aurait pu, non ?
Mais en réalité, c'est beaucoup plus qu'un épisode. Parce que quand ils ont fait ça, c'est tout le système des parités fixes qui s'est effondré. Parce qu'il n'y avait pas que les Américains, il y avait tous les autres. Et les autres ont trouvé qu'après tout, ça serait assez commode qu'eux aussi puissent bénéficier de cette liberté d'échange. Après tout, si l'échange s'établissait entre monnaies, tous les jours, à la faveur du marché, de l'offre et de la demande de monnaie, après tout, pourquoi pas. Et alors, il faut comprendre, pour répondre à la question de base qu'on est en train d'évoquer, que en réalité, derrière cette fixité des rapports de change, il y avait un processus de discipline de politique économique. Pourquoi ? Parce que si vous êtes dans un système de rapport de change très étroit, ce qui était le cas, et que vous décidez, un pays, la France par exemple, décide de pratiquer une politique beaucoup plus libérale en matière de monnaie, de création monétaire, de crédit, de budget, accepter des déficits budgétaires importants, des choses comme ça. Si on fait ça, on est très vite sanctionné par le taux de change, qui devient à ce moment-là incompatible avec son taux officiel, parce qu'il a tendance à se déprécier. Et donc, le système se grippe à ce moment-là. Il faut aller prendre sa canne et son chapeau vers le Fonds monétaire international et demander une dévaluation. Et dans le système de Bretton Woods, c'était difficile, parce qu'on vous disait « Mais pourquoi vous avez fait ces choses-là ? Pourquoi vous avez laissé dériver votre budget, votre crédit ?» Et après avoir obtenu une dévaluation lorsque celle-ci était nécessaire, il fallait s'engager à maintenir une politique plus discipliné. Et donc, quand les Américains ont détruit le système de Bretton Woods en 1971, cette destruction ayant été entérinée 2 ans après, en 1973, il faut comprendre que cette fixité d'échange qui entraînait une discipline très, très puissante, très étroite, des politiques économiques a également disparu. Donc on faisait ce qu'on voulait. Et alors on est entré dans une période, et c'est ça la thèse du livre vers laquelle je voudrais vous attirer, on a donc commencé à agir d'une manière beaucoup plus libre du point de vue de la politique économique, en se disant, au fond c'est pas très grave, les changes flottants résoudront le problème, on n'est plus obligé d'évaluer, tout ça, ça se réglera par les marchés, et on retrouve, nous, une liberté dans la politique économique. On peut faire une politique économique beaucoup plus axée sur la croissance que lorsqu'on était bridé par les rapports de change fixes, et donc on peut le faire tout en laissant, et c'est ça qui est peut-être le plus important, tout en laissant les mouvements de capitaux agir et se développer d'une manière fluide à l'intérieur du système. Et on a donc changé de paradigme plutôt que de se contraindre à des politiques économiques et monétaires compatibles, si vous voulez, avec la stabilité des changes, on a mis en avant la liberté de choisir sa politique économique, quitte à ce que les changes varient et que les balances des paiements se règlent et se financent en fait par des mouvements de capitaux. Donc il y a eu deux phénomènes qui ont joué en même temps. Il y a eu la destruction du cadre, qui était un cadre assez rigide, et d'autre part, il y a eu la financiarisation du système, c'est-à-dire la possibilité pour les gens qui faisaient un peu ce qu'ils voulaient sur le plan de la politique économique, de trouver des financements sur les marchés, c'est-à-dire de devenir emprunteurs ou créditeurs selon la situation dans laquelle ils étaient. Et c'est ce système qui prévaut toujours. Ce que je viens de dire, c'est absolument valable aujourd'hui. Mais évidemment, si on fait ça pendant 50 ans, on accumule pendant cette période beaucoup d'endettement, si on est parmi les débiteurs du système. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, l'endettement est devenu un phénomène massif. Je vous en donne une idée. Au moment où le système de Bretton Woods s'est effondré, c'est-à-dire au début de... Enfin, en 1971, au début des années 70, la dette publique, par rapport au produit intérieur brut de l'ensemble des pays considérés, la dette publique représentait un peu moins de 20% de ce PIB mondial. Aujourd'hui, elle frise 100%. Et donc, il y a eu une augmentation de 5 fois en termes réels. Ça, c'est pas de l'inflation, c'est pas du nominal, c'est par rapport au PIB. C'est-à-dire, ce sont des valeurs réelles. Il y a donc eu un quintuplement de la dette publique. Et si je prenais la dette privée, il y avait aussi quelque chose comme une multiplication par 5 de la dette privée. Donc, le système s'est considérablement endetté. Et ce que j'essaye de montrer dans ce livre, c'est que plus on s'endette, plus il est facile de faire des investissements, d'acheter des avoirs, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, plus il est facile pour les gouvernements de fabriquer des déficits et de les financer par accès à l'emprunt international. Et tout ça, je dirais, pendant les premières années, est assez agréable, parce que c'est beaucoup de liberté qui est donnée aux acteurs économiques et financiers, qu'ils soient privés ou publics, du reste. Mais il y a un moment où la dette rattrape le débiteur, parce que la dette, il faut quand même la repayer. Alors même si on a des dettes à très long terme, que l'on peut refinancer et reporter donc les échéances, si vous voulez, de loin en loin, il faut quand même la servir du point de vue des taux d'intérêt. Et ça coûte cher. Et plus la dette s'accroît, plus l'arbitrage de la dépense publique ou privée vers le service des intérêts devient important au détriment d'autres dépenses qui peuvent être plus utiles. Et en particulier des dépenses d'investissement, d'éducation, de formation. Et donc, ce que vous voyez un peu derrière cette description des crises, c'est que le monde a quitté le paradigme de la discipline de la politique économique et monétaire. On s'en est débarrassé. La fixité des taux de change est un frein qui a disparu. Et quelle chance, les mouvements de capitaux se sont libéralisés. On a supprimé les contrôles d'échange, on a dérégulé le système financier. Et donc, les mouvements de capitaux étaient tout prêts à financer les déficits que je viens d'évoquer. Et ce faisant, la dette a beaucoup monté. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous savons malheureusement que les excès d'endettement créent les crises. Et si vous regardez, par exemple, les différentes crises que je décris dans ce livre, en particulier la crise des pays latino-américains du début des années 80, vous voyez que c'est une crise de surendettement. Ils se sont trop endettés et il y a un moment où ils n'ont plus pu, avec leurs exportations, payer le service de leur et les échéances de leur dette. Et donc ils ont déclaré un moratoire et il y a eu une crise qu'on a réparée, mais qui a été une crise très grave.
Et c'était très grave, mais qui se déroule aux périphéries.
Oui, système, en quelque mais sorte. Avec les crises que nous avons connues en Europe, il y a eu des crises qui n'étaient pas dans la périphérie du système, qui étaient au centre du système. Et nous avons eu l'expérience à plusieurs reprises des bulles qui se sont constituées, qui se sont enflées pendant les périodes de facilité où on pouvait emprunter commodément et qu'un beau jour, les marchés eux-mêmes ont percé ces bulles, et avec les conséquences que cela comportait. Alors, il n'y a pas si longtemps, après la crise de 2007-2008, c'est vraiment tout proche de nous, on a vu les conséquences d'une crise d'excès d'endettement, aussi bien privé que public, et les ravages que cela a causés à l'économie, à l'emploi et à la croissance. Et malheureusement, quand nous parlons aujourd'hui en 2016, à la fin du mois de juin 2016, qu'est-ce que nous voyons ? Eh bien, nous voyons un endettement qui continue à pleine force de se manifester. Et des bulles qui se constituent et qui sont visibles sur les marchés financiers. Et donc, la plausibilité, la probabilité de nouvelles crises, elle est là. Et alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir pourquoi. C'est une question que vous évoquiez avant que nous commencions l'entretien officiel, mais pourquoi, politiquement, on en est arrivé là ?
Oui, je veux dire, c'est l'apport majeur, je trouve, de votre livre. D'une part, on est saisi lorsqu'on voit votre témoignage d'acteur critique, mais d'acteur quand même d'observateur aux premières loges de ces mouvements. On se demande, d'une part, comment a-t-il été possible de penser qu'en dynamitant le système de Bretton Woods, qu'on ne s'émancipait pas seulement de règles contraignantes artificielles, on avait le sentiment qu'on arrivait dans le réel en s'émancipant de ces règles. Or, en réalité, on s'émancipait plutôt du réel pour partir dans quelque chose de fluide, un petit peu imaginaire, non tangible. Comment expliquer cette illusion ?
Eh bien, je vais tenter de l'expliquer. Ce n'est pas un sujet que je traite très précisément dans l'ouvrage, mais vous m'y invitez et je crois que c'est une question qui est très, très importante. Comment est-ce que on a pu croire qu'en se débarrassant des règles très précises qui limitaient les fluctuations de change entre monnaies, comment est-ce qu'on a pu croire qu'on pouvait s'émanciper, en fait, de tout le reste, c'est-à-dire de la contrainte que la rareté impose à l'homme et qui se traduit par la nécessité, si on veut être stable, de limiter les déficits et de vivre à peu près en harmonie avec ses propres moyens. Alors comment est-ce que on a pu croire, en effet, que en se débarrassant de Bretton Woods, on se libérait complètement ? Alors c'est une grande interrogation et je vous sais gré de l'avoir posée. Et je n'ai pas de réponse évidente à cette question qui est une question de société et presque une question philosophique. Ce que je peux dire, c'est que il y a eu une croyance qui s'est développée dans les années 70, surtout 80, et qui explique en partie la réponse à cette question. Et cette croyance, c'était que les marchés étaient auto-équilibrants. C'est-à-dire que quand une crise se manifestait sur un marché, parce qu'il y avait un excès, soit d'offres, soit de demandes, et que les prix allaient dans des directions extrêmes, le marché lui-même se corrigeait, s'auto-régulait. Et que non seulement il s'auto-régulait, mais qu'il s'auto-régulait d'une manière assez rapide. Et de telle façon que le système ne se dérègle pas d'une manière extrême. Si vous cherchez des fondements rationnels et des éléments objectifs qui permettent de donner une substance à cette thèse, vous aurez beaucoup de mal à en trouver, parce qu'à la vérité, c'est une thèse qui est plus une croyance qu'une thèse. Et cette croyance, dans le caractère auto-équilibrant des marchés, a été un élément très important, me semble-t-il, dans ce que j'appelle le dévoiement du système financier. Parce qu'on se disait, oui, peut-être qu'on exagère un peu l'endettement, mais tout ça sera réparé par des marchés qui n'admettront pas les excès de cette surliquidité des marchés. Alors, on a eu tort, parce qu'en réalité, l'histoire des crises que je raconte, et en particulier l'histoire de la dernière crise, celle de 2008, montre que le marché n'a pas été un élément auto-équilibrant. À la vérité, le marché est devenu extrême en 2008, au tel point qu'il a fallu que la puissance publique, sous la forme des banques centrales et des gouvernements, intervienne pour acheter les actifs qui étaient vendus sans acheteur. Et donc, on s'est aperçu qu'en réalité, c'était une croyance non fondée que celle-là. Donc il y a cet élément-là qui, à mon avis, a joué dans la réponse à la question « Comment a-t-on pu croire que l'effondrement du système de Bretton Woods nous permettrait de nous émanciper de toutes les règles disciplinaires ?» Il y a ça. Et puis, il y a peut-être quelque chose de plus profond que j'avance avec un peu d'hésitation, mais qui me paraît quand même à creuser. Les systèmes politiques ont très vite vu l'avantage qu'ils pouvaient tirer d'une politique d'endettement indéfinie. En effet, c'est plus facile de dire à ses concitoyens, quand on est un homme politique, que ça s'arrangera, que les déficits, ce n'est pas grave, que la liquidité mondiale est très ample, qu'il n'y a pas de raison de brider la croissance immédiate en fonction des difficultés de taxation et de fiscalité qu'on peut avoir dans l'avenir, etc. Et donc, il s'est créé un biais en faveur de la facilité, et ce biais en faveur de la facilité a été très largement utilisé par les systèmes politiques. Et donc, on a vu une sorte de glissement de l'attitude politique à l'égard des problèmes de discipline au cours de ces années-là. Et donc, plutôt que d'avoir à traiter des problèmes à long terme, avec une vision, en disant on ne peut pas faire n'importe quoi, parce qu'il faut qu'on pense aussi à l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, il faut qu'on ait une vision longue de l'intérêt du pays, on a rapproché cette vision au point de la faire coïncider à peu près avec l'horizon politique, disons, de 5 ans. Et à ce moment-là, on est tombé un peu dans ce que le grand homme politique italien De Gasperi, après la guerre, disait. Il disait un homme politique, politicien, à un horizon de 5 ans, celui de sa réélection, alors qu'un homme d'État à un horizon de génération. Et je crains que la facilité financière, la déréglementation, l'absence de régime ordonné, de change, ait favorisé, si vous voulez, les inclinations humaines, après tout, de facilité politique. Et je me suis demandé, est-ce que... Parce qu'il faut réfléchir à l'aspect démocratique ou non démocratique de ce que je viens de dire. Je me suis demandé, est-ce que un gouvernement a eu le courage et l'honnêteté de demander à sa représentation nationale, à son Parlement, voulez-vous vous engager dans une politique d'endettement indéfinie? Je vais vous présenter les avantages et les inconvénients de cette politique. Les avantages, c'est que c'est plus facile. Ça permet de faire des dépenses à court terme qu'on n'aurait peut-être pas pu faire autrement. Les inconvénients, c'est qu'on se retrouvera avec une dette qui pourra être inhibante pour la croissance à plus long terme. Et il aurait été intéressant que... Après tout, les peuples ne doivent pas être pris pour des enfants, ils doivent être pris pour des adultes. Et il aurait été important de leur poser ce dilemme, ou cette option, si je puis dire, entre la facilité et une plus grande, je ne dirais pas rigueur, mais une plus grande normalité, si vous voulez, dans le fonctionnement de l'économie. Eh bien, je n'ai jamais trouvé de pareilles discussions, si vous voulez, un peu fondamentales. J'ai toujours trouvé des exercices budgétaires. Oui, on apportait le budget au Parlement tous les ans et on disait il y a un déficit de 2 points de PIB. Bon, et puis voilà, ça passait. Mais le fait de faire comme Gasperi, c'est-à-dire de dire, écoutez, on va vous montrer la vision que l'on vous apporte, à force de vous apporter tous les ans des budgets en déficit. Et ça, je ne l'ai jamais vu. Et de ce point de vue-là, on peut dire que le contenu démocratique de nos sociétés s'est beaucoup vidé de substance.
Quelque chose que je trouve frappant dans la concordance, pour aller dans votre sens, c'est induit. On sent que la fracture, bon, on le sait, elle est datée, c'est le début des années 70. Juste après 70, c'est aussi 2 ans après mai 68, qui est quand même l'éruption d'une nouvelle forme de mentalité, tournée davantage vers l'hédonisme, après les efforts de la reconstruction. Hein. J'imagine que la société d'avant mai 68 n'était pas toujours très drôle, elle était tendue vers l'effort, peut-être un peu sacrificielle, vers la volonté de léguer quelque chose de plus important que ce qu'on avait reçu. Mais on voit aujourd'hui les conséquences d'une situation inverse. Je dis ça pour... non pas exonérer, mais ne pas trop accabler une classe politique qui est aussi peut-être à l'image d'un glissement de la société en général.
Non, mais vous avez raison de dire ça. Le phénomène de mai 68, que je décris d'ailleurs rapidement dans l'ouvrage, parce que je l'ai vécu, est tout à fait en concordance avec ce que nous venons d'évoquer. Et en effet, si vous voulez, j'ai toujours tendance un peu à traiter les problèmes par le biais technique. Alors je vous ai donné 2 réponses à votre question fondamentale. La première, c'est que on a cru que le marché arrangerait toujours les excès, et on s'est trompé. Et la deuxième chose que je vous ai dite, c'est que la facilité de l'endettement qui avait été générée par... à la fois la liberté d'échange et par la déréglementation financière en général, donnait une occasion au personnel politique de s'en tirer assez à bon compte. Mais vous avez raison, au-delà de ces explications un peu techniques, il y a probablement une explication plus générale, plus philosophique, c'est qu'à un moment donné... peut-être parce que la vie était relativement facile et que les années étaient glorieuses du point de vue économique, à un moment donné, on a voulu mettre une dose de plus grande liberté, d'hédonisme, de satisfaction plus totale, si vous voulez, par rapport au modèle qui était proposé, et qui était un modèle qui était fondé sur le travail et sur les gains de productivité, pour parler en termes techniques. Et donc, mai 68 est certainement en consonance avec tout ce que l'on dit. Alors, il faut distinguer, si vous voulez, ce qui est la cause profonde et la cause secondaire. Ça, je n'en sais rien.
Ah oui, je ne dis pas que 68 était la cause. Hein. Pour moi,
non,
c'est...
mais c'est un élément qui...
un révélateur de quelque chose.
C'est un révélateur et c'est certainement un point important dans ce que vous dites. Alors, évidemment, le réveil est pénible aujourd'hui parce que maintenant, on s'aperçoit que après des années de libertarisme économique et financier, tout n'est pas réglé. C'est pas le fait de créer de la liquidité en masse qui règle les problèmes.
À bien des égards, c'est un remède qui ressemble au mal, non ?
Ben oui. Et donc, moi, je m'oppose aujourd'hui à la croyance non raisonnée et, à mon avis, déraisonnable, selon laquelle il suffirait de créer de la liquidité pour résoudre les problèmes d'emploi ou les problèmes de sous-compétitivité de nos économies. Et donc, alors je n'élabore pas, comme on dit, ce point dans mon livre, je l'évoque. Mais je pense que les mêmes causes produisant les mêmes effets, un excès d'endettement crée des bulles, et les bulles créent des crises. Et donc, je dis, à force de créer de la liquidité ces temps-ci avec la Banque Centrale Européenne et d'autres banques centrales, on risque fort de recréer des bulles et donc de recréer des crises. Voilà.
Oui, enfin, on éteint l'incendie en versant de l'essence dessus.
Ben oui. Mais on éteint l'incendie en versant de l'eau dessus, mais si on a éteint l'incendie et qu'on continue à verser de l'eau par tonne, on crée un dommage qui peut être encore aussi grave que le premier. Et donc, je pense que maintenant, il faudrait un peu devenir raisonnable et se dire que ce n'est pas la création illimitée de liquidités qui nous sortira de l'auberge.
Justement, là, on quitte le domaine des mémoires pour entrer dans la prospective, mais quel remède ? Enfin, on a l'impression d'être pris dans une spirale où finalement, on n'a pas trop... La crise a pris une telle ampleur que... y a-t-il une autre solution pour en sortir progressivement ? C'est quoi ? C'est un atterrissage en douceur ? Selon quelle modalité ?
Oui, c'est un atterrissage en douceur. Il ne s'agit pas de changer brutalement d'orientation. Vous savez, les très grands navires, quand ils veulent changer de route, c'est très graduellement qu'ils le font. Et donc, il faudra le faire graduellement. Mais il faut quand même changer de route. Il faut s'arrêter de croire que, en créant de la liquidité, c'est-à-dire en créant de la monnaie, ce que Jacques Rueff appelait les faux droits, la monnaie ne se crée en réalité que contre une contrepartie, un soubassement économique, et pas justement en l'imprimant.
Oui, c'est pas un artifice, ça doit être le reflet du réel.
Et oui, et donc ce n'est pas en continuant à créer de la monnaie artificielle, appelons-la comme ça, que on résoudra les problèmes. Donc il faut, je crois, changer d'orientation, le faire graduellement pour éviter des soubresauts excessifs. Et je pense que la responsabilité des gouvernements et des banques centrales est très importante. Parce que les gouvernements doivent commencer, ou continuer pour certains d'entre eux qui ont déjà commencé le processus, mais à rappeler à leurs concitoyens que on peut pas vivre indéfiniment au-dessus des moyens que l'on crée par son propre travail. Et alors ça, c'est une des vérités qui a été oubliée depuis cette libération, entre guillemets, des politiques économiques à laquelle je fais allusion dans mon livre. Et je crois qu'il faut revenir à cette notion que on peut pas indéfiniment emprunter son chemin dans le déficit. Donc ça, c'est une modification du discours politique. C'est quelque chose qui, à mon sens, ne devrait pas tellement choquer le citoyen. Parce que, comme je l'ai dit, on n'a jamais interrogé le citoyen sur « Est-ce que vous croyez qu'on peut indéfiniment financer les déficits budgétaires, même les déficits de dépenses courantes, pas les dépenses d'investissement, mais les dépenses courantes, le paiement des fonctionnaires en fin de mois par de l'emprunt. Si on posait cette question à l'homme de la rue, c'est-à-dire à celui qui est vraiment le citoyen, je ne suis pas du tout sûr qu'il vous dirait « mais oui, bien sûr, on peut s'endetter à gogo ». Je ne le crois pas du tout. Et donc, je pense que les gouvernements ne feraient que quelque chose de raisonnable en évoquant et en traitant cette question avec leurs concitoyens. Ça, c'est une chose. Et puis la deuxième chose, c'est que les banquiers centraux devraient s'arrêter de croire, ou de laisser croire, faire semblant de croire, dans certains cas, que la création de liquidités règle tout. Et alors, je ne vois pas encore les prémices de ces changements. Je pense qu'ils sont possibles. Je pense qu'on a tort de prendre les citoyens pour des enfants non matures, incapables de comprendre des choses qui sont vraies et qui sont sages. Et donc, c'est un peu un appel, vous le verrez à la fin du livre, dans les toutes dernières pages, c'est un peu un appel à la prise de conscience et à la raison de nos démocraties européennes. Et alors, vous disiez au tout début que nous parlions quelques jours après le Brexit. Et en vous parlant, je me dis que le Brexit, c'est aussi en fait une illusion qui a été l'objet d'un référendum, d'une élection. Mais il était clair que la raison eût voulu que l'Angleterre restât en Europe, parce qu'elle en avait pratiquement tous les avantages sur le plan d'un grand marché intérieur. Et elle n'en avait que très peu d'inconvénients, puisqu'elle s'était décrochée de la monnaie, elle s'était décrochée de l'espace de Schengen, elle s'était pratiquement décrochée de la contribution budgétaire avec les ristournes de Mme Thatcher. Donc ils avaient un club merveilleux qui était à leur disposition pour tous les services financiers, les exportations, et en même temps très peu de contraintes. Et pourtant, ils ont demandé à sortir de ce système qui était ultra avantageux pour eux. Et alors maintenant, je crois qu'ils se rendent compte de la gravité de leur acte, mais c'est un acte qui est très largement, me semble-t-il, non réfléchi, et qui est un acte impulsif. Et je me dis que il serait bien que on tire un tout petit peu la leçon de ça, et qu'on se dise, mais plutôt que de toujours récriminer contre le populisme qui mène à ce genre de décision, il faudrait faire en sorte qu'il y ait moins de populisme, parce que, d'une certaine manière, les attitudes que je décris dans mon livre, les attitudes de facilité excessive, ils génèrent un peu ce genre de réaction. Et si on expliquait mieux la chose publique, si on disait au peuple vraiment ce que sont les dilemmes de politique économique, et les Anglais, s'ils avaient vraiment compris l'équation à laquelle ils étaient confrontés, eh bien, on aurait probablement eu des résultats différents. Alors on dit, oui, mais c'est la partie inéduquée du peuple britannique qui a voté. Ceci me confond de stupeur, parce que, et ça a l'air d'être un prétexte. On dit, ah oui, mais alors, c'est pas notre faute, vous comprenez, nous, on l'a compris, mais c'est le peuple dans sa partie, je dirais, la moins éduquée, qui est l'auteur de ce vote. C'est un échec démocratique de dire ça. Il faut que le peuple s'éduque. Et si on n'a pas parvenu à l'éduquer, c'est que probablement la politique n'a pas été la bonne. Et donc, ce vote est étrange, qui m'a étonné, je dois dire, je ne m'attendais pas tout à fait à ça, nous invite à la sobriété et à l'explication.
Et probablement aussi à la vision. Votre livre se conclut également par la nécessité d'un projet positif et d'une c'est vision. Vrai. Vous le dites aussi en citant Gasperi. Comment créer un élan positif en faveur de l'Europe ou de toute autre politique si on s'en tient à des horizons basés à 1 ou 2 ans.
Mais oui, mais il faut du leadership, il faut des gens qui acceptent de ne pas être réélus en faisant des choses qui ne plaisent pas à tout le monde. Mais être toujours, si vous voulez, au service des sondages, espérer que ce qu'on va faire va vous faire gagner un point, c'est le contraire de la politique. C'est un homme comme le général de Gaulle, qui avait beaucoup aussi de défauts, mais il avait un avantage énorme par rapport au personnel politique ambiant, c'est qu'il avait une vision de la France. Et alors, on pouvait ne pas être entièrement d'accord, mais au moins, c'était une vision. Et il ne cherchait pas à se faire réélire l'année suivante. Il a pratiqué une politique budgétaire très rigoureuse, de Gaulle, parce qu'il avait une vue simple. Il disait, un budget, ça doit être équilibré, sauf l'investissement, que je peux financer par emprunt, parce que ça me rapportera quelque chose après. Mais les dépenses courantes, c'était peut-être une réaction de militaire, mais je vous assure que c'était une réaction qui était aussi une réaction de bon financier. Et il a eu beaucoup de problèmes politiques. Ça n'était pas du tout un long fleuve tranquille. Et donc, je pense que nous avons besoin de gens comme ça, de réformateurs, de gens qui ont une vision, qui acceptent de se dire « bon, ben, je ne serai pas réélu le coup d'après, mais je fais ça pour mon pays ». Et donc, c'est à ça que j'aspire en tant que citoyen. Et pour le moment, je n'en vois pas tellement. Voilà.
Je vous remercie beaucoup pour cet exposé. J'ai encore 2 réactions, si vous me permettez, parce que je trouve nos échanges fructueux. S'agissant de la capacité des électeurs, du peuple, à recevoir... non pas une leçon, mais une explication de ce qu'est le réel de la difficulté de gouverner et des fondamentaux de l'économie et du mur du réel qui consiste à dire qu'effectivement, on ne peut pas vivre à crédit indéfiniment. Il me semble, vous allez me dire si je ne me trompe pas, que leur propre comportement le démontre, puisque face à cette facilité de crédit qui est réelle aussi pour les simples citoyens, ils ne la saisissent finalement qu'assez peu. Toutes ces liquidités, les consommateurs ou les électeurs, les citoyens restent davantage, si j'ai bien compris aujourd'hui, des épargnants que des consommateurs, tant et si bien qu'on s'en désole puisque ça ne relance pas la machine économique par la demande, c'est bien ça ?
Oui, bien sûr.
Parce que ça prouve pas leur bon sens, finalement. Ils sont inquiets.
Oui, ils sont inquiets, c'est pour ça qu'ils épargnent, d'ailleurs. Et ils sont victimes de la politique monétaire actuelle qui met les taux d'intérêt à 0, parce que leur épargne n'est pas rémunérée. Et quelquefois même, elle est dérémunérée quand les taux d'intérêt sont négatifs. Donc, les gens qui épargnent, c'est-à-dire les Français moyens, sont victimes de la politique monétaire d'extrême facilité. Et alors, est-ce qu'ils sont susceptibles de partager un raisonnement économique qui tendrait à normaliser la politique économique et à mettre moins l'accent sur l'endettement illimité ? C'est difficile de répondre à cette question parce que le poison de la dette facile a été très largement instillé dans nos sociétés. Et donc ce n'est pas très facile quand on a été victime d'une addiction. C'est pas très facile de s'en écarter. d'autant plus que les taux d'intérêt sont très faibles et qu'un gouvernement peut faire du déficit budgétaire en empruntant pour le financer à des conditions pratiquement zéro. Et donc, ce gouvernement n'est pas très incité à faire des réformes de caractère budgétaire. Alors, c'est la réponse à votre question est à la fois facile et difficile. Elle est difficile parce que je viens de dire qu'il y a une sorte d'addiction à l'argent facile qui a un peu pénétré dans tout le système social. Et en même temps, elle est facile en ce sens que la répression financière qui consiste à voler les épargnants de toute rémunération est quand même très mal vue et amène à réfléchir. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que les dirigeants, enfin ceux qui se veulent être dirigeants, posent ces problèmes au pays et fassent comprendre un peu à la fois la complexité, mais aussi l'évidence de certaines propositions. Et malheureusement, je trouve que le débat politique dans nos pays est trop simplifié, trop binaire, évite les vrais sujets, se focalise sur des choses souvent de détail, mais qui sont, si vous voulez, très, très faciles à commenter dans la presse et peuvent faire l'objet de déclarations superficielles. Mais moi, j'aspirerais à un système un peu plus comme celui des pays du nord de l'Europe, où on traite les vrais sujets dans les campagnes électorales. On traite les sujets budgétaires, de la politique monétaire, on pose ça aux citoyens. Et pas seulement la dernière réforme du marché du travail ou des choses comme ça. On pose des sujets encore plus fondamentaux. Et donc, je souhaiterais que nous devenions à cet égard plus méthodiques, plus sérieux, et que, voilà, on tire un peu la leçon, si vous voulez, de 50 ans de crise financière, comme j'essaye de le faire dans ce petit livre paru chez Odile Jacob.
Merci beaucoup, Jacques Delarosière. Je vois que notre conversation a confirmé, en tout cas, que si la résolution de ces crises exigeait une bonne compréhension des mécanismes qui sont ceux de l'économie et de la finance, il sera nécessaire aussi pour les résoudre d'avoir le courage de surmonter une crise qui est aussi probablement morale, identitaire, politique, démocratique et autres. Mais derrière tous ces mots, c'est toujours la même réalité que nous mettons et l'éternel combat entre probablement la facilité et l'effort. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation et j'invite nos auditeurs à se reporter à votre ouvrage 50 ans de crise financière par Jacques Delarosière aux éditions Odile Jacob. C'est un témoignage fondamental pour comprendre donc ce qui nous est arrivé, ce qui est arrivé à la France et au monde et à nous tous depuis donc 50 ans, l'effondrement du système de Bretton Woods. Et vous verrez que ces choses ne sont pas abstraites, car on en trouve des échos pour chacun de notre vie de tous les jours. Merci beaucoup.
Merci à vous.